Viens, Esprit Saint, éclairer l'intelligence de notre cœur et continue d'embraser en nous le feu de ta charité. Amen. C'est le jour du grand repos et en plus c'est l'heure de la sieste. Je cours un risque non négligeable. Mais si vous vous endormez, c'est très bien. Vous connaissez le psaume 26, hein, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. C'est très apaisant. Je voudrais commencer l'enseignement de cet après-midi par une courte citation de la lettre aux Hébreux, qu'on a déjà évoquée hier après-midi, celle qui nous présentait Jésus comme grand prêtre. Là, je voudrais lire au chapitre 6, les versets 19 et 20, ce qu'elle nous dit de l'espérance, puisque nous sommes en ce samedi saint, dans ce jour de l'espérance. Cette espérance, nous dit la lettre aux Hébreux, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Cette image est très forte, elle est reprise souvent sur des vitraux. Vous voyez dans les églises une ancre. On peut se dire, tiens, si l'église est en bord de mer, c'est assez logique avec l'environnement. Mais parfois, c'est dans les Alpes. Et en fait, ça fait une allusion à ce passage de la lettre aux Hébreux. L'ancre est devenue, pour l'iconographie chrétienne, le signe de l'espérance. Parce qu'elle est, voyez, solidement arrimée, non pas au fond de la mer, comme les ancres habituelles, mais au-delà du voile du ciel, et elle est rentrée dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, en Dieu. Et cette ancre, bien sûr, c'est Jésus lui-même qui, par sa résurrection, avec son humanité, va entrer dans l'intimité de son Père, et donc arrime solidement l'humanité auprès de Dieu. Et voilà que nous sommes donc solidement arrimé en Dieu par Jésus, grand prêtre, voyez, par l'offrande de sa vie sur la croix, ce qu'on a contemplé hier, et par sa résurrection que l'on va célébrer cette nuit. Voilà, retenez cette image hein, d'une ancre jetée dans le ciel, c'est assez original, en général ça marque, et la solidité du coup de l'ancrage de notre foi auprès du Père, et ce qui donc donne une espérance forte, voyez, puisque nous sommes attachés déjà au ciel. Quelles que soient les vicissitudes que l'on traverse sur la terre, eh bien nous sommes déjà accrochés, ancrés au ciel. Voilà l'espérance chrétienne. Et alors on peut continuer à jouer sur les mots. Il se trouve qu'en hébreu, le mot espérance signifie aussi corde. Donc voilà, c'est la corde hein, qui nous relie à cette ancre de l'espérance. Voilà, nous sommes donc encore sur terre, mais déjà un peu au ciel. Vous voyez, nous passons de plus en plus de ce monde au Père et de la mort à la vie. Comme image, peut-être l'avez-vous en mémoire, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la rechercher, je vous invite à avoir un peu en esprit l'icône qu'on appelle de l'Anastasis, dans la tradition orientale, dans la tradition latine on l'appelle de la descente aux enfers, ce qu'on a contemplé ce matin. Vous voyez cette icône où Jésus, vêtu de blanc, descend, et souvent sa tunique, son manteau blanc est élevé derrière lui, ce qui essaie de traduire un mouvement dynamique de descente, et il va prendre par la main Adam et Ève. Et il y a en bas d'icône une sorte de caverne ouverte, hein, en fait c'est le séjour des morts, dont les portes ont volé en éclats, et si vous êtes attentif, il y a les battants des portes, et puis il y a les serrures, les clés, voilà, qui sont parties dans tous les sens. Et en fait, c'est cette puissance de vie et d'amour de Jésus qui descend dans le séjour des morts pour en libérer ceux qui y sont et pour les faire entrer au ciel, dans le paradis, auprès de son Père, dans son royaume, avec lui. Voilà. Ah ben formidable, merci ma sœur. Voilà, on va nous la présenter. Si quelqu'un veut bien la prendre et la présenter à l'Assemblée. Merci beaucoup. Voilà, le samedi saint en direct vidéo. Presque. Voilà. Vous voyez donc Jésus qui descend au séjour des morts pour en retirer l'humanité. Donc sous, bien sûr, évoquée par la figure d'Adam et Ève. Voilà, vous pourrez vous approcher tout à l'heure, peut-être regarder le détail, notamment de ces serrures et de ces portes qui ont volé en éclats. L'année dernière, j'ai vécu le Triduum Pascal dans une paroisse où il y a un maître-autel, et du coup, à l'office des ténèbres, le samedi matin, la dernière bougie, elle a été prise par le célébrant qui l'a emmenée derrière le maître-autel. Et donc, à un moment donné, on n'a plus vu cette dernière flamme de la foi et de l'espérance. Et à ce moment-là, les paroissiens ont secoué les chaises dans tous les sens, en faisant un ramdam de tous les diables, c'est le cas de le dire, parce que c'était en fait pour évoquer cette explosion des portes des enfers. Vous voyez, Jésus qui descend aux enfers, on ne le voit plus, la lumière disparaît, mais cette lumière, elle descend dans le séjour des morts et elle en fait voler en éclats les portes, les serrures. Et du coup, voilà, il y avait ce bruit avec les chaises, là, tous les paroissiens secouaient les chaises, ça faisait un raffut impressionnant. Et c'était très beau comme évocation. Vous voyez, en même temps, les portes des enfers qui volent en éclats. Et à ce propos, tiens, je n'avais pas pensé vous le dire, mais je l'ai dans le cœur, ça vient peut-être du Seigneur. J'ai entendu récemment un enseignement d'un catholique anglais, Damian Stein, qui nous faisait remarquer qu'on est très souvent, dans le combat spirituel, on est très souvent sur la défensive. Vous voyez, en se disant, avec Jésus et dans la foi, je vais résister aux attaques de l'adversaire, mais comme si c'était lui qui avait l'initiative et qui était toujours à l'offensive, et nous, comme si nous étions contraints à toujours nous mettre en posture de défense. Or, il nous faisait remarquer que dans la parole de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, quand Simon a dit à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », vous vous souvenez de la réponse de Jésus, hein ?« Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elles. » Je pense que, et pour moi en tout cas c'était le cas, on a tendance à traduire et à assimiler « les portes de l'Église ne céderont pas devant le mal et devant la mort ». Vous voyez, comme si on était dans notre château fort, dans notre donjon, et qu'on comptait bien sur la solidité de la porte, vous voyez, pour nous protéger. Or, ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit « les portes des enfers ne prévaudront pas contre l'Église ». Donc, c'est nous qui sommes à l'offensive. Et c'est les portes du séjour des morts qui ne résistent pas à la puissance de vie et d'amour de Jésus. Vous voyez ? Et donc, le mal qui est chez lui dans la mort, d'une certaine façon, voilà, l'adversaire, le démon, eh bien, c'est lui, en fait, qui est sur la défensive depuis la résurrection de Jésus. Vous voyez, là aussi, on est appelé à se convertir, à se retourner intérieurement. N'ayons pas peur. Jésus le répète à longueur de page d'évangile. N'ayez pas peur. À tel point que Jean-Paul II en avait fait la phrase inaugurale de son pontificat, vous vous souvenez ? N'ayez pas peur, ouvrez grand les portes au Christ rédempteur. Ouvrez grand les portes au Christ rédempteur. Voilà. Et même les enfers ne peuvent pas maintenir leurs portes fermées devant Jésus, qui dans son offrande, dans son sacrifice d'amour, va jusqu'à donner sa vie et à descendre dans le séjour des morts. Les portes des enfers explosent. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment du côté de la victoire. La victoire est certaine. Vous connaissez peut-être cette réflexion impressionnante d'un pasteur protestant, Dietrich Bonhoeffer, qui a été arrêté et condamné à mort et exécuté par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il était condamné, il savait qu'il allait mourir dans peu de temps. Il a réussi à faire passer un billet à l'un de ses amis, sur lequel il a écrit seulement quelques mots. Il n'y avait pas beaucoup de place, il n'avait sans doute pas beaucoup de temps non plus. Il a juste écrit « La victoire est certaine ». Impressionnant. Et cette foi chrétienne dans le Christ ressuscité, vainqueur du mal et de la mort, et qui donne naissance à une espérance, voilà, qui va au-delà de l'apparente défaite du moment. Donc continuons d'entrer nous-mêmes dans cette espérance. Et nous continuons à demander, comme je vous y invitais au soir du Jeudi Saint, nous continuons à demander avec le psaume 50, verset 14, « Rends-moi la joie d'être sauvé ». Voilà. Demandons dans notre prière de ce samedi au Seigneur, vraiment de retrouver et de trouver de façon plus approfondie, plus forte encore, cette joie du salut, hein, du salut qui vient ouvrir les portes du séjour des morts pour nous introduire dans la vie éternelle. Alors pour avancer dans cette joie de Pâques qui pointe à l'horizon, nous retrouvons nos trois fils et nous allons entrer aussi dans la troisième dimension de cette retraite, détachement, disponibilité, décision. Voilà, nous nous sommes rendus disponibles en nous détachant de notre quotidien, en nous mettant dans une attitude de prière, et cela va nous conduire à une décision. Alors la première de ces décisions, eh bien, nous allons la prendre tous ensemble dans la vigile pascale, d'ici quelques heures. C'est la décision qui a mûri tout au long de ce carême, je le rappelais ce matin, c'est la décision de renoncer catégoriquement au péché, à ce qui conduit au péché et à Satan qui est l'auteur du péché. La triple renonciation de la liturgie du baptême qui nous sera donnée de reformuler ce soir. Et puis la triple profession de foi. Voilà une décision forte, hein, on pourrait dire une pierre angulaire pour notre vie quotidienne, c'est la profession de foi de notre baptême. Oui, je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et qu'il fait de moi son fils, sa fille bien-aimée, par grâce, en me purifiant de mes péchés par l'eau du baptême, et en infusant en moi l'Esprit Saint, qui fait de moi un saint, une sainte en puissance, qui fait de moi déjà en acte, voilà, un temple, le temple de l'Esprit Saint, pour en vivre et le partager au monde. Voilà la première décision, hein, que nous allons pouvoir prendre, reprendre ensemble, d'ici quelques heures. Et puis, il y a une autre décision plus personnelle que je vous invite à prendre avant de quitter Parel Monial ou de sortir de cette retraite demain. Alors, vous la prendrez dans la nuit, vous la prendrez demain matin, à chacun de voir, bien sûr, en toute liberté. Peut-être est-elle déjà prise, d'ailleurs. Hein. Le Seigneur travaille dans nos cœurs à son rythme. Et du coup, cette décision, c'est une décision concrète. À partir de ce que vous aurez reçu, entendu dans cette retraite, hein, le Seigneur, je pense, vous parle personnellement en soulignant tel aspect du mystère pascal, telle phrase de l'Écriture, tel geste, tel événement vécu depuis jeudi. Et à partir de ce que le Seigneur vous fait découvrir, redécouvrir, eh bien, prenez une décision simple, concrète, mais qui vous permette d'avancer dans votre vie de disciple. Voilà comment, à partir de cette fête de Pâques 2018, je vais vivre comme disciple missionnaire de Jésus. Qu'est-ce qui va m'aider à vivre en disciple missionnaire? Peut-être est-ce au niveau de la prière que j'ai une décision à prendre pour ancrer dans ma vie une prière personnelle quotidienne. C'est peut-être une pratique sacramentelle que j'ai à retrouver, sacrement du pardon, Eucharistie. C'est peut-être dans le domaine de la formation. Je sens, je découvre qu'il y a beaucoup de champs de ma foi qui ne sont pas au clair et j'ai peut-être à approfondir le donné et l'intelligence de ma foi. C'est peut-être dans le champ de la charité, de la compassion que le Seigneur vous oriente à prendre une décision de service concret, de compassion, d'engagement auprès de plus pauvres, de personnes malades. C'est peut-être dans le champ de la mission, de l'évangélisation, que le Seigneur vous invite à témoigner, à prendre une initiative, à inviter, à proposer. Voilà, vous voyez, c'est très large, c'est très vaste, et ça dépend vraiment de qui vous êtes, de là où vous en êtes, et là, il n'y a que vous et le Seigneur, hein, qui puissiez vous orienter vers cette décision. Voilà, ça peut être au sein de la vie communautaire, mes sœurs. Voilà, il y a peut-être telle ou telle décision à prendre personnellement, à proposer à la communauté. Voilà, selon ce que l'Esprit-Saint vous aura aussi permis de découvrir pendant cette retraite du Triduum. Voilà, donc on s'oriente vers cette décision, on la porte dans notre prière, et on peut prier toujours les uns pour les autres. Hein, on vit cette retraite aussi ensemble. Voilà, prions pour que chacun puisse trouver et prendre la décision qui convient, selon le point où il en est. Je prends le fil de l'Écriture pour cet enseignement, donc, du samedi saint. Ce matin, nous étions vraiment tournés vers le mystère du samedi saint, de la descente aux enfers. Voilà. Cet après-midi, on va commencer à se préparer à la joie de Pâques. Hein, donc, je vais surtout parler du mystère de la résurrection de Jésus. On n'y est pas encore, hein, mais on s'y prépare. Voilà, j'anticipe un peu. Et je commence par un passage de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 8. S'il y a une référence que vous devez connaître par cœur, c'est celle-là. 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Saint Paul écrit, c'est sans doute au tournant des années 50, pas 1900, hein, premier siècle, 50-51, que Paul écrit cette lettre, peut-être un petit peu après, peut-être au milieu des années 50, ça dépend un peu des spécialistes. Oui, la première aux Thessaloniciens, c'est 50. Là, on est plutôt vers 55-56. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, donc un port de culture hellénistique, hein, grec, en Macédoine, non, en Grèce, dans le Péloponnèse plutôt, Corinthe. Et ce sont des chrétiens issus du paganisme, et il va leur rappeler l'essentiel de leur foi. Et donc ça vaut aussi, bien sûr, pour nous. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle, dans le texte grec c'est l'évangile, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voilà, 1 Corinthiens 15, 1, 8. Paul rappelle aux Corinthiens ce qu'il leur a annoncé, et il le rappelle sous la forme d'un condensé, d'un résumé de la foi, on pourrait presque dire d'un credo, hein, d'un symbole de la foi, qu'il a lui-même reçu. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Voilà, donc Paul qui a rencontré personnellement Jésus ressuscité sur la route qu'il conduisait à Damas, se retourne intérieurement, reconnaît dans Jésus de Nazareth, hein, dont il pensait le plus grand mal, le Messie d'Israël, le Messie de sa foi juive, et il va devenir l'un des témoins les plus ardents de cet évangile, de la résurrection. Et voilà qu'il résume avec les mots qu'il a lui-même reçus lorsqu'il s'est laissé enseigner à Damas, vraisemblablement, peut-être à Antioche quelque temps après. En tout cas, on a là, vous voyez, la formulation de la foi chrétienne dans ses toutes premières années. Paul a dû se convertir vers l'an 35, vous voyez, à peine quelques années, deux, trois ans après la mort de Jésus, et il a vécu cette expérience de rencontre avec le ressuscité, et il a assimilé ce que l'Église naissante lui a enseigné. Et on a donc là, vous voyez, l'expérience, la formulation première de la foi chrétienne en la résurrection. Je vous le relis. C'est ce qu'on appelle aussi le kérigme, hein, le cri, la proclamation de la foi dans ce qu'elle a d'essentiel, de plus fondamental. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. C'est le mystère du jour. Il est ressuscité, ce sera cette nuit, et on le célébrera jusqu'à demain et pendant 50 jours, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, il est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, et il s'est manifesté, il est apparu. Tout ça, c'est conforme aux Écritures. Vous avez là vraiment le condensé de la foi chrétienne, alors qu'elle est à peine conscientisée et qu'elle commence à être formulée. Vous voyez, 1 Corinthiens 15, 1, 8. C'est quelque chose vraiment à connaître presque par cœur. Un jour, j'ai été marqué quand j'étais séminariste, mon évêque avait donné une homélie pour la veillée pascale, et il avait dit, si on me donnait un timbre-poste, c'est pas gros, hein, et que je devais écrire dessus ma profession de foi, eh bien j'écrirais, il est ressuscité. Voilà, vous avez là le cœur du cœur du cœur de la foi chrétienne. S'il n'y a pas la résurrection du Christ, comme Paul le dit un peu plus loin dans cette même lettre aux Corinthiens, chapitre 15, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, elle est vide, tout s'écroule, tout part du tombeau vide et de la rencontre des premiers disciples avec le ressuscité. Si l'histoire s'arrête à la mise au tombeau, eh bien c'est une belle histoire, et on peut garder Jésus en mémoire comme un prophète qui a dit de belles choses, qui a posé des gestes étonnants, mais on en reste là. Il n'y aurait pas l'Église, il n'y aurait pas des témoins depuis 20 siècles qui vont jusqu'à donner leur vie pour être fidèles à cette foi chrétienne en la résurrection. Il n'y aurait pas les martyrs de Rome, il n'y aurait pas le père Jacques Hamel et tous ceux qui ont donné leur vie entre-temps. Vous voyez, on est vraiment là au cœur du cœur du cœur de notre foi, la résurrection de Jésus. Donc ça vaut la peine d'approfondir ce mystère. On va le faire encore avec l'aide de saint Jean, dans la suite du chapitre 19 qu'on a médité hier et ce matin, au chapitre 20, cette fois-ci, les versets 1 à 18. Saint Jean 20, 1, 18. Le premier jour de la semaine, bah oui, on l'a vu ce matin, on est après le sabbat, donc on commence une nouvelle semaine, l'activité économique reprend. C'est l'équivalent dans notre France de culture chrétienne, c'est l'équivalent du lundi matin. Quand j'ai été prêtre étudiant à Jérusalem, j'étais surpris le dimanche matin d'entendre les coups de klaxon, les voitures qui roulaient à fond, alors que le samedi c'était hyper calme. Et j'ai mieux compris que voilà, le dimanche c'est vraiment le premier jour de la semaine en Israël. Vous voyez, l'activité reprend. Hein, c'est très marquant. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. le premier jour de la semaine. Ça correspond au troisième jour de la Passion. Voyez, on a deux calendriers là qui se superposent. Le premier jour, c'est donc le vendredi où Jésus meurt et déposé au tombeau. Le deuxième jour, c'est celui où nous sommes, hein, où le corps est dans le tombeau, la pierre est roulée. Et le troisième jour, hein, ce sera demain matin, où le tombeau sera découvert vide. Le troisième jour. On a vu que cette expression, elle est déjà présente dans l'Ancien Testament, hein, Osée au chapitre 6, le troisième jour tu nous relèveras. Elle est présente aussi dans le livre de l'Exode. Si vous allez relire le chapitre 19 de l'Exode, c'est le moment où Dieu se manifeste au peuple d'Israël après la sortie d'Égypte, au Sinaï. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, prépare son peuple à une rencontre avec lui. C'est le moment où il va donner la Torah, la loi, hein, les 10 paroles. Et il y a plusieurs jours de préparation, et c'est le troisième jour que Dieu se manifeste, hein, de façon spectaculaire. Des éclairs, un orage, voilà, un ouragan même. Et c'est le troisième jour. Vous voyez, donc dans l'Écriture, l'expression « le troisième jour » correspond à une manifestation de Dieu. Dieu se manifeste. Eh bien, le troisième jour, après la Passion, ou de la Passion, voilà que Dieu va se manifester, non pas par un ouragan, par quelque chose d'extraordinaire, mais à travers un tombeau vide. Et puis, pour certains, la rencontre avec Jésus ressuscité. Mais on est bien dans cette dynamique, vous voyez, de révélation, de manifestation de Dieu, hein, le troisième jour. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. Vous vous souvenez aussi l'évangile des noces de Cana? Parce que si on en croit le récit de la création, Genèse chapitre 1, vous savez que chaque jour, Dieu vit que cela était bon. Hein, et dans le troisième jour de la création, il y a deux fois où Dieu bénit. Il y a deux bénédictions de Dieu. C'est le seul jour où il y a deux bénédictions. Donc dans la tradition juive, c'est un jour béni, le troisième jour. Ayom Hashlishi, hein, le troisième jour. Et c'est pour ça aussi que les juifs se marient le troisième jour. Le mardi, premier jour dimanche, deuxième jour lundi, troisième jour mardi. Dans la tradition juive, on se marie le mardi parce que c'est un jour doublement béni. Et on comprend pourquoi il y a des noces à Cana le troisième jour. Voilà, un petit indice aussi pour attirer votre attention sur cette expression qui, dans l'Écriture, n'est jamais neutre. Hein, si vous la croisez, vous dites « Ah, là il y a un signal clignotant, hein, le Seigneur veut se manifester, veut faire comprendre quelque chose de lui-même. » Et c'est une bénédiction. Premier jour de la semaine, donc Marie-Madeleine va au tombeau. On est donc à l'origine de notre dimanche, hein, premier jour de la semaine, jour du Seigneur, dies Domini, et qui est en même temps donc le 8e de la semaine de la création, et on est donc, on l'a dit déjà ce matin, dans une nouvelle création qui commence. Marie-Madeleine va voir le tombeau vide, c'était encore les ténèbres, hein, donc elle aperçoit les choses, elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre. Vous savez, les mauvaises langues disent que si Jésus ressuscité s'est d'abord manifesté à des femmes, c'était parce que comme ça il était sûr que la nouvelle allait se répandre. Bon, c'est les esprits mal intentionnés qui disent ça. Marie-Madeleine, en tout cas, voyez, ne va pas aller plus loin. Elle voit la pierre rouler, elle va voir Pierre et les apôtres. Hein, il y a déjà un sens de l'Église qui est assez beau, qui se dessine, et c'est Pierre et l'autre disciple qui vont venir. Alors, ils vont venir pas au même rythme, hein, vous avez entendu? Pierre et l'autre disciple se rendent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Bon, sans doute qu'il était plus jeune. Quand j'étais aumônier d'étudiants, on organisait un cross tous les samedis matins avec les étudiants. Il y avait le groupe Saint-Pierre et le groupe Saint-Jean, vous voyez, hein. On va pas tous au même rythme. Voilà, c'est une donnée de la nature. Bon. Donc, Saint-Jean arrive en premier. Mais il n'entre pas. C'est très beau. C'est Pierre qui va rentrer au premier. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très beau dans les attitudes des disciples les uns vis-à-vis des autres. Marie-Madeleine s'aperçoit que la pierre est roulée. Elle va trouver les apôtres. Deux des apôtres viennent. Celui qui arrive en premier n'entre pas. Il laisse la préséance à Pierre. Voilà. voyez, ça dit quelque chose de la qualité de leur regard sur le rôle respectif des uns et des autres d'après la mission que Jésus leur avait confiée. C'est intéressant. Et puis, il faut être intéressé aussi par le jeu de mots sur le verbe « voir ». Alors, on a une petite difficulté en français, c'est qu'on n'a que le verbe « voir ». Mais dans le texte grec de Jean, il y a trois verbes différents. Alors, je vais essayer de vous en rendre compte. Au verset 5, vous avez le premier disciple, l'autre disciple, donc Jean, qui arrive. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. S'apercevoir, et on a fait une petite nuance de traduction, c'est bien. En grec, c'est le verbe blepei. En fait, c'est vraiment le premier niveau de la vision, c'est le constat physique de ce qui est vu, c'est le constat visuel. Il voit que les linges, je reprends le texte pour ne pas dire de bêtises, les linges sont posés à plat. En fait, comme si, c'est pas comme si, mais le corps n'y est plus, mais les linges sont restés dans la disposition qui était la leur, seulement ils se sont affaissés sur eux-mêmes, parce que le corps n'est plus entre le linge du dessous et le linge du dessus. Vous voyez, hein, vous imaginez que le corps disparaît, on ne sait pas comment, mais en tout cas les linges, eux, restent à leur place et donc vont s'affaisser les uns sur les autres. Ils sont posés à plat, voilà, il n'y a plus le relief que donnait la présence du corps de Jésus. C'est ce que voit visuellement, donc ce que constate Jean. Deuxième temps, Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit, verset 6, les linges posés à plat. Donc il fait le même constat, mais c'est déjà un autre verbe. Hein, c'est le verbe théorei en grec, qui a donné le mot français théorie. Là, on est dans un deuxième degré de la vision, c'est le degré où on commence à analyser, à conceptualiser ce qu'on a constaté. Vous voyez, blepei, je constate, les linges sont posés à plat. Théorei, je réfléchis, si les linges sont posés à plat, c'est que le corps n'y est plus. Eh oui, où est donc passé le corps? Hein, mais donc, Saint Jean prend un verbe différent pour nous montrer qu'il y a une progression intérieure et intellective, aussi intellectuelle, chez les disciples. Et puis verset 8, il va franchir un troisième degré. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Là, c'est le verbe eidein. Enfin, ça, c'est la conjugaison. Le verbe, c'est orao, hein, pour ceux qui font un peu de grec. Et ça, c'est la vision de la réalité profonde. Voilà, c'est la vision qui va au-delà du constat immédiat, mais qui voit la signification de ce qui a été constaté. Et il voit et il croit. Voilà. Donc c'est la vision qui précède vraiment l'acte de foi. Entre-temps, au verset 7, l'évangéliste nous a donné des éléments intéressants. Pierre voit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Ça, c'est une mention très importante. Ça veut dire que ce qui avait entouré la tête, ce linge-là, c'est lui aussi affaissé sur lui-même et il est resté à sa place. Il n'a pas été mis avec les autres. Remarque très importante. Si on avait défait le cadavre des linges, on aurait groupé effectivement les linges. Quand vous défaites votre lit, quand vous partez d'un lieu, vous savez, hein, vous quittez une chambre d'hôtel ou une chambre d'amis, vous défaites les linges, vous les mettez en boule dans un coin. Vous mettez tous les linges ensemble. C'est ce qui aurait pu se passer si on avait pris le corps de Jésus. Or là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Saint Jean nous dit que les linges sont à plat, le corps n'y est plus, et le linge particulier qui avait entouré la tête, il est à sa place. Donc lui aussi, il s'est affaissé sur place. On n'a pas défait les bandelettes, on n'a pas retiré le linceul qu'on avait mis au soir du Vendredi Saint. C'est le corps qui est sorti des linges, et pas l'inverse. Voilà ce qu'on peut dire à partir des expressions précises, hein, des évangélistes et notamment de Jean. Après, on rentre dans l'acte de foi. Vous voyez, il vit et il crut. Mais on a la vision de constat, hein, le tombeau, la pierre est roulée, le tombeau est vide, les linges sont à plat. On a la réflexion à partir de cette vision, hein, le corps n'est plus là, comment a-t-il pu partir? Et puis on a la vision qui arrive à la foi, Orao, Eiden, il vit Et il crut. Jean comprend que si le corps n'est plus là, c'est que Jésus est ressuscité, comme il l'avait annoncé. Mais il est le premier, vous voyez, à entrer vraiment dans cette foi chrétienne qui croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que personne, humainement parlant, ne l'a fait sortir du tombeau. Mais c'est lui qui est sorti des linges, du linceul et du tombeau pour entrer dans la gloire de son Père. Voilà ce qui est proposé à notre contemplation et à notre foi. Saint Jean, voyez, s'il prend trois verbes différents pour traduire la vision dans cette page d'évangile, c'est que c'est vraiment un évangile pédagogique qui veut nous introduire dans un regard de foi, à partir du sensible, passer à l'invisible. L'évangile de Jean, c'est l'évangile sacramentel par excellence. Dans les sacrements de l'Église, on est dans cette dynamique. Vous voyez, on a toujours un signe sensible. Je vois de l'eau couler pour le baptême. Je vois du pain, du vin. J'entends la parole du prêtre pour l'Eucharistie. J'entends la parole de l'absolution dans le sacrement du pardon. Il y a de l'huile pour l'onction des malades, pour l'ordination. On impose les mains pour la confirmation. Il y a le Saint-Crème. Vous voyez, il y a des gestes, il y a des signes qui touchent et qui rejoignent nos sens. Eh bien, à partir du sensible, nous sommes appelés par la foi à atteindre ce qui est invisible et dont les signes sont porteurs. C'est ça un sacrement. C'est un signe sensible qui est porteur d'une réalité invisible, de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu. Voilà. Et saint Jean est un évangéliste qui, sans arrêt, nous invite à faire ce passage, voyez, du premier niveau à la profondeur de sens et de réalité. Souvenez-vous du dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Voilà. D'où vas-tu la tirer, cette eau vive ? Voilà. Donne-moi cette eau vive, comme ça j'aurai plus à l'épuiser. Et la Samaritaine, elle reste au niveau 1. J'ai besoin d'un seau pour aller chercher l'eau au fond du puits. Alors que Jésus l'invite à passer au niveau 2. Moi, je peux te donner l'eau vive. C'est pas seulement de l'eau physique, mais c'est l'eau vive de l'Esprit Saint, de l'amour du Père pour toi et sa miséricorde. Voilà l'évangile de Jean qui nous introduit à la dynamique sacramentelle de notre vie chrétienne. Quelques mots sur Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, elle revient. Elle a été la messagère. Vous savez que le pape François, l'année dernière, a fait quelque chose d'important. Le 22 juillet, on faisait mémoire de Marie-Madeleine dans la liturgie. On l'avait pas oublié, quand même, elle a un rôle important. Mais le pape François a érigé dans la liturgie sa fête à une fête, précisément. C'était une mémoire et c'est devenu une fête. On chante le gloire à Dieu, par exemple, concrètement, pour honorer celle qu'il appelle l'apôtre des apôtres. Voilà. Elle a été celle qui a finalement apporté la bonne nouvelle du tombeau vide aux 12 apôtres, aux 11, puisque Judas n'est plus là. L'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine, donc une sainte femme qui a beaucoup à nous apprendre sur la miséricorde et sur la résurrection de Jésus. Alors je voudrais juste vous en dire quelques mots, parce qu'on ressemble un peu à Marie-Madeleine, sous bien des aspects. Marie-Madeleine, elle cherche le corps de son Seigneur. Elle se tient près du tombeau, dehors, tout en pleurs. Elle se penche vers le tombeau. Donc elle cherche le corps de Jésus, parce qu'elle est venue pour l'embaumer, vous vous souvenez ? On avait fait des choses un peu à la hâte le vendredi soir, et il faut parfaire l'embaumement. Et Marie-Madeleine aime Jésus, c'est une disciple fervente, voilà, avec toute sa sensibilité féminine qui plus est. Et donc elle revient auprès du tombeau, et elle le cherche. Mais que cherche-t-elle ? Elle cherche un mort, un cadavre. Et c'est pour ça qu'elle ne va pas reconnaître Jésus tout de suite. Marie-Madeleine ne cherche pas un vivant. Elle cherche un mort. C'est pas pareil, Vous avez remarqué ? Ça bouge moins, un mort. Un mort, on sait où c'est. Le mort, on l'a mis là, il bouge plus. Petite anecdote un peu pittoresque, j'étais vicaire en paroisse au Sable d'Olonne. Un des prêtres dans l'équipe était ancien aumônier militaire. Il avait un vocabulaire assez cash, assez direct. Et un jour, il préparait des funérailles avec une famille qui devenait un peu pénible à force de lui dire « Mais le défunt aurait souhaité ceci, mais le défunt aurait souhaité cela. » Et ça n'en finissait pas. Et du coup, un peu excédé, il a fini par dire « Quand on est mort, on ferme sa gueule. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous voyez, depuis ce matin, on parle du silence du tombeau. Donc quand on est mort, on n'est pas très loquace. Bon. Et donc Marie-Madeleine, elle cherche un mort. Elle cherche quelqu'un qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui est dans sa case, là où on l'a mis. Pas de chance, Jésus est ressuscité, il est vivant. Un vivant, ça bouge. Donc ça surprend. Un vivant, c'est pas toujours là où on l'attendait. Mais t'étais où ? Ah bah oui, je suis vivant. Donc, excuse-moi, je me déplace. Vous voyez ? Qui cherchons-nous quand nous venons à l'église ? Nous cherchons un mort ou un vivant ? De qui sommes-nous les disciples ? D'un Jésus image d'Épinal, bien posé sur son étagère, dans son cadre ? Ou bien je suis disciple d'un vivant qui peut me dire des choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui peut m'amener moi-même à bouger ? Est-ce que Jésus, il est dans la case dimanche 11h midi, amen, merci Seigneur ? Ou est-ce que je le laisse vivre et être aussi dans la case lundi, mardi, mercredi, jeudi, même dans mes vacances, voyez ? Jésus, il ne rentre pas au tombeau parce que je pars en vacances. Il est toujours vivant, voyez ? Très intéressant de contempler Marie-Madeleine qui cherche un mort et qui ne le reconnaît pas parce qu'il est vivant. Je vous invite à contempler ça aujourd'hui et à demander à Sainte Marie-Madeleine de nous aider, voyez, à passer à une foi vive en un Jésus vivant qui peut me surprendre, qui va sortir peut-être des cases du catéchisme, hein, parce que le catéchisme nous dit l'essentiel, mais ne prétend pas décrire les mouvements de Jésus en temps et en heure à chaque instant. Hein. Donc soyons prêts à être surpris par Jésus. Vous pourriez aussi aller lire cet après-midi Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Marie-Madeleine, alors ce qui est très beau, c'est que dans la liturgie juive de la fête de Pâques, de Pessah, la lecture biblique, c'est le Cantique des Cantiques. Et vous verrez dans ce passage, si vous le relisez ou vous en souvenez peut-être, le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour entre une bien-aimée et un bien-aimé qui se cherchent sans jamais se trouver. Enfin, on ne sait pas trop quand ils arrivent à se trouver. Il y a quelque chose de mystérieux. Et donc, Marie-Madeleine, c'est vraiment la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Et elle cherche son bien-aimé. Et elle ne le trouve pas. Et elle passe à côté, parce qu'elle le cherche mort alors qu'il est vivant. Voilà, on peut aussi regarder Marie-Madeleine hein, sous cet angle-là. C'est une très belle lecture. Et du coup, elle évoque notre âme, hein, vous voyez, notre cœur spirituel, qui cherche Dieu comme son bien-aimé, mais qui a parfois du mal à le trouver. Hein, et à certains moments, on pense avoir trouvé Dieu, et puis hop, l'instant d'après, il nous échappe. Monseigneur Castet, là, mon évêque, quand j'étais encore en Vendée, il avait cette image qu'il donnait souvent aux étudiants. Il disait « La foi, c'est comme Titi et Gros Minet ». Vous savez, Gros Minet, c'est ce chat qui veut toujours attraper le petit serin, la Titi, et Titi lui échappe toujours. Ben, la foi, c'est pareil. Voilà. On pense saisir Dieu, et hop, il est déjà ailleurs. Vous voyez, il nous entraîne toujours plus loin. Et donc Marie-Madeleine, pour ça, c'est vraiment la figure du disciple qui cherche et qui ne se décourage pas, et qui se laisse rejoindre par le Seigneur, et enseignée par lui, mais qui est prête aussi à ne pas l'accaparer. Noli me tangere, ne me retiens pas. Je vais y venir à cette expression, mais juste encore un peu avant, un mot sur la souplesse de Marie-Madeleine. Je ne sais pas si elle a fait de la gymnastique, mais elle est très souple. Parce qu'elle arrive à se retourner deux fois en restant dans la même direction. Ce qui est fort, hein ? Regardez. Elle est penchée vers le tombeau. On est d'accord, hein ? Verset 11, là. Elle est penchée vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges. « Femme, pourquoi pleures-tu ? On a enlevé mon Seigneur. » Ayant dit cela, verset 14, elle se retourna. Donc vous avez la scène, elle est tournée vers le tombeau. Elle voit les deux anges, elle parle avec eux. Et puis elle se retourne. Et derrière elle, donc à l'entrée du tombeau, mais à l'extérieur, dans le jardin, elle voit un homme qu'elle prend pour un jardinier. Bon, c'est Jésus, mais elle ne le sait pas encore. « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie, s'étant retournée, elle lui dit. » Comment ça se passe là ? Vous voyez, elle était face au tombeau, elle se retourne, elle est devant Jésus. Ben non. Quand je parle à quelqu'un, je reste dans l'axe, vous voyez ? Donc là encore, Saint Jean joue sur les mots. Elle se retourne intérieurement. Voilà, c'est la conversion de Marie-Madeleine. On pourrait traduire plus justement, s'étant convertie, elle lui dit « Rabouni ». Voilà, ça y est, elle voit de la vision de la foi et elle croit « Mon maître ». Ce qui veut dire maître, en fait, c'est plus affectueux ça. Rabouni en araméen, c'est mon maître chéri ou mon maître à moi. Vous voyez, mais il y a le petit qualificatif mon. Hein. Voilà, c'est pas maître avec la préséance. Il y a quelque chose de très affectueux dans cet échange. Et d'ailleurs, elle se convertit quand Jésus l'appelle par son prénom, Marie. Hein, et c'est vraisemblable que ce soit par la voix, en fait, qu'elle le reconnaisse, par l'intonation. La voix, c'est quelque chose d'encore plus personnel et singulier que le visage. Voyez. Et c'est très beau parce que comment nous entrons dans la foi? Nous n'entrons pas dans la foi par la vision, puisque précisément croire, c'est faire confiance sans voir. On entre dans la foi par l'audition. Hein, vous pourrez relire saint Paul, Romains 10, 17, « Fides ex auditu ». Saint Paul nous dit que la foi vient de l'audition. Pour croire, il faut que l'on ait entendu la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il faut des témoins, des prophètes, des messagers qui portent la parole. On ne peut pas entrer dans la foi si on n'a pas reçu l'annonce de la foi, la proposition de la foi, l'annonce de l'évangile. Voyez, c'est pour ça que nous sommes invités à être des disciples missionnaires. C'est pour que d'autres puissent rencontrer celui que nous rencontrons dans la foi. Personne ne pourra dire l'évangile à ma place, là où je suis placé, dans mon milieu de vie, dans mon travail, dans ma famille, dans mes amitiés. Vous voyez ? Et c'est vraiment la parole qui va retourner le cœur de Marie-Madeleine et lui permettre de reconnaître Jésus ressuscité. Alors, dernière remarque sur Marie-Madeleine. Le commandement ne me retient pas. Hein, noli me tangere, c'est une formule latine du coup qui est devenue proverbiale. Ne me retient pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est étonnant cette mention. On voit bien l'attitude de Marie, vous voyez, qui reconnaît son Seigneur et qui a envie de l'embrasser, quoi, très simplement, hein, très familièrement. Et Jésus qui lui dit, ne me retiens pas. Pourquoi il y a cette distance? Alors il y a plusieurs façons de l'interpréter. La première, c'est justement que Jésus invite Marie-Madeleine à ne pas le remettre dans une case. Vous voyez, et à ne pas vouloir l'enfermer comme si elle le possédait, alors que ça doit être l'inverse. C'est pas nous qui devons nous approprier Jésus, nous devons devenir sans cesse plus membres de Jésus, membres de son corps, membres de son Église, membres de sa communauté. Voilà. Donc Jésus invite Marie à pas inverser les rôles. Voilà, Jésus n'appartient pas à Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine qui est disciple de Jésus et qui est invitée à appartenir à son corps ecclésial. Une deuxième interprétation possible, je vous la partage, je l'ai découvert au début du carême. Si on se reporte au chapitre 19 du livre de l'Exode, où il est mention de ce troisième jour, j'en parlais tout à l'heure, quand le Seigneur va se manifester au Sinaï pour donner à Moïse les tables de la loi, il y a plusieurs consignes qui sont données au peuple d'Israël, se préparer pour le troisième jour, et la consigne de ne pas toucher la montagne sainte où le Seigneur va se manifester. Vous voyez, ne pas toucher le troisième jour. Eh bien, on retrouve les mêmes éléments dans la manifestation du ressuscité à Marie-Madeleine. C'est le troisième jour après la Passion, et il y a cette consigne de ne pas toucher, de ne pas retenir. Voilà. Comment le comprendre? Je crois que c'est assez simple. En fait, c'est une façon de dire qu'on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Et on ne peut pas mettre la main sur Jésus ressuscité au sens où on pourrait le mettre sous notre coupe, vous voyez, pour le maîtriser. Parce que justement, encore une fois, c'est l'inverse. Nous sommes invités à nous laisser toucher par Jésus, à nous laisser prendre par lui dans le royaume. C'est lui qui va nous faire passer de ce monde au Père. C'est pas nous qui le retenons dans le monde. Voilà. Je vous propose cette lecture qui, personnellement, me convainc. On peut retenir enfin de ce passage que Jésus a vraiment vécu la Pâque juive, cette fête de Pessah, mais de façon complètement nouvelle et beaucoup plus profonde. Ce n'est plus seulement un passage à travers la mer de l'esclavage d'Égypte à la terre promise, mais c'est un passage de la mort physique à la vie éternelle, à la vie en Dieu. Et un passage qui concerne le corps, puisque le tombeau est vide. Et c'est pourquoi nous croyons en la résurrection de la chair. Vous voyez, notre foi chrétienne, ce n'est pas une foi spiritualisante. C'est une foi très concrète, très charnelle. Les sacrements touchent nos corps. Il y a un grand respect à avoir pour le corps les uns des autres, pour notre propre corps. Sans pudibonderie excessive, à un certain moment de l'histoire de l'Église, on a pu tellement vouloir respecter le corps qu'on le mettait sous coffre ou sous cloche. Or, heureusement, grâce à Saint Jean-Paul II, la théologie du corps, on redécouvre les choses de façon beaucoup plus équilibrée et plus juste. Mais il n'empêche que notre corps n'est pas qu'une enveloppe. Vous voyez, qu'on abandonnerait une fois qu'on a vécu notre vie. Non, notre corps, c'est nous. Nous sommes corps, cœur et esprit. Mais nous sommes notre corps. Vous voyez, ce n'est pas simplement de la matière négligeable ou dont il faudrait absolument se détacher. Ça, c'est du platonisme qui a parfois influencé certains prédicateurs chrétiens de façon excessive. Vous voyez, où on pense que le corps est un tombeau pour l'âme. Ce n'est pas la vision biblique et c'est encore moins la vision chrétienne d'après la résurrection. S'il y a le vœu de chasteté, s'il y a des consacrés dans l'Église, si les prêtres sont appelés parmi des hommes qui ont fait le choix du célibat pour le royaume, c'est parce que la résurrection rejoint nos corps de façon très concrète et peuvent changer la façon de considérer la sexualité et la transmission de la vie. Comme chrétiens, nous pensons qu'on peut transmettre la vie autrement que physiquement. Et c'est le sens de la consécration dans la virginité pour les consacrés, dans le célibat sacerdotal pour les prêtres. Un prêtre disait un jour, vous savez, le vide que vous voyez à côté de moi, l'épouse et les enfants qui ne sont pas là, eh bien pour comprendre, comprenne qui pourra, dit Jésus, Matthieu 19, donc ça restera toujours une question qui nous fait réfléchir. Et c'est aussi pour ça le célibat des religieux, des prêtres, c'est pour nous faire réfléchir. Eh bien, il disait, rapprochez ce vide du vide du tombeau. Vous ne pouvez pas comprendre le célibat pour le royaume, la virginité consacrée, le célibat sacerdotal, si vous ne les mettez pas en lien avec le vide du tombeau au matin de Pâques. Le corps de Jésus est saisi dans la gloire de Dieu. Nos corps sont appelés à participer à la gloire de Dieu. Et donc renoncer librement, volontairement, par amour, à engendrer charnellement, c'est une façon d'affirmer que le royaume de Dieu est déjà présent, que nous sommes déjà dans la vie éternelle. Et que nous en vivons déjà. Donc ce vide de la famille qui n'est pas à mes côtés, c'est le vide du tombeau. C'est en creux la présence du royaume de Dieu. C'est la vie éternelle qui vous est proposée, qui nous est proposée. C'est une façon de dire, tout ne s'arrête pas à la succession des générations. Il y eut un père, il y eut un fils, rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai qu'il y a une succession des générations et c'est heureux, honore ton père et ta mère, bienheureuse famille. Mais en même temps, la famille n'est pas un absolu. C'est un passage, c'est une école, c'est une préparation. Nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour le royaume. Ça, c'est du durable, ça, c'est de l'éternité. Eh bien, le choix du célibat des consacrés et des prêtres, c'est un choix d'éternité. C'est une façon de dire que l'éternité est déjà dans le présent. Et que donc notre façon de vivre, eh bien, doit en rendre compte, doit le manifester, doit en tenir compte. Voyez, on est là sur quelque chose de très beau, de très grand. Alors malheureusement, on n'est pas toujours à la hauteur de la grandeur qu'on a reçue et qu'on a choisie. Il y a des scandales, il y a des infidélités, il y a des contre-témoignages, c'est vrai. Comme dans le mariage, il y a malheureusement des divorces et des séparations. On n'est pas toujours à la hauteur de nos promesses, c'est vrai. Mais il n'empêche que la promesse a du sens, qu'elle nous donne un cap, et que si elle est là, c'est qu'elle nous tourne vers le ciel, ce pour quoi nous sommes faits. Donc prions les uns pour les autres, dans nos vocations respectives, prions pour la fidélité dans les choix de vie que nous avons posés, prions pour qu'il y ait des jeunes, garçons, filles, qui entendent cet appel à consacrer leur vie, tout leur être, au Seigneur, pour être déjà des signes de ce royaume de Dieu présent au milieu de nous, voilà, pour être des témoins de la vie éternelle. Le temps passe, les amis. Alors, le fil de l'enseignement de l'Église est le fil de notre vie de disciples. Ça va être rapide. Pour l'enseignement de l'Église, je voudrais juste évoquer le chant de l'exultète. Vous savez, c'est le premier chant de la nuit de Pâques où on annonce la Pâque, hein, Jésus qui est passé de la mort à la vie, et on annonce donc la résurrection. Il y a ce petit verset que je voudrais vous partager. « Ô nuit, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Personne ne sait quand et comment a eu lieu la résurrection de Jésus. On n'a pas de témoin, si ce n'est la nuit. Voilà. Ô nuit, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. On ne voit l'œuvre de Dieu que dans ses effets. On n'est pas encore équipé ou suffisamment prêt pour voir en direct l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ça demande toute une vie de conversion et ça demande un don de grâce. Donc on va être témoin du ressuscité, de la résurrection, après qu'elle ait eu lieu, dans ses effets. Le tombeau est vide, les linges sont à plat, le suaire qui a recouvert la tête est à sa place, à plat lui aussi. Et les femmes, les apôtres, vont rencontrer Jésus ressuscité, mais déjà ressuscité. Ils ne l'ont pas vu en train de ressusciter. Vous voyez ? Donc la résurrection nous échappe. Ne me touche pas, ne me retiens pas. Ne prétendons pas mettre la main sur la résurrection de Jésus. C'est plus grand que nous. C'est l'œuvre de Dieu. Nous approchons du mystère de la résurrection par ses effets. Vous voyez, comme si on remontait le courant hein, vers la source, un peu comme un saumon voilà, qui remonte vers la source. En tout cas, la résurrection n'est pas une évidence, c'est une réalité de foi. Le tombeau vide, c'est un signe, c'est pas une preuve. On aurait pu voler le corps. D'ailleurs, l'hypothèse va être faite. Elle est même mentionnée dans l'évangile de Matthieu. Même si quand même il y avait des gardes. Bon, passons. La seule vue physique du ressuscité ne suffit pas à Marie-Madeleine. Vous voyez, c'est vraiment dans la foi, y compris quand on rencontre le ressuscité, qu'il faut un acte de confiance et de foi pour entrer dans une relation avec lui. Voilà, je vous invite à retenir ça, c'est que la résurrection concerne tout l'être, y compris le corps. Le tombeau est vide. Donc nous attendons, nous croyons à la résurrection de la chair. Quand, comment, nous ne savons pas. Restons humbles. Mais en tout cas, c'est notre espérance chrétienne. C'est pour ça que dans les funérailles chrétiennes, on encense le corps, on le bénit et on le met en terre avec beaucoup de respect. Parce que ce corps est appelé à la résurrection. Alors vous allez me dire, Jeanne d'Arc, comment on va faire ? Ben oui, hein, il y a des corps qui malheureusement sont mutilés, sont brûlés. Ce n'est pas une question de physique, la résurrection. C'est une question d'intervention divine. Hein, celui qui a créé le ciel et la terre est capable de recréer ce qui a été détruit, disloqué par la mort. Et surtout, il est capable d'unir et de réunir l'âme et le corps, vous voyez, dans une unité nouvelle pour l'éternité. Et donc, nous croyons que ce que nous déposons en terre, eh bien, ça a du sens, ça a du prix, et qu'un jour, nous reverrons, nous pourrons à nouveau embrasser ceux que nous avons mis en terre. Quand, comment, nous ne savons pas, mais nous le croyons. Et la foi peut nous aider à approcher ce mystère. Alors aujourd'hui, comment rencontrer ceux qui sont morts ? On peut aller prier sur leur tombe au cimetière, ça a du sens bien sûr, puisque le corps, et y compris ce corps mis en terre, a de la valeur. Mais là où nous les rencontrons le plus intimement, c'est dans la communion eucharistique. Parce que entre la mort du corps et la résurrection du corps, il y a tout cet espace de temps que nous vivons, dans notre situation terrestre, qui fait qu'il y a une distance, vous voyez. Et donc c'est par le corps du Christ que je vais pouvoir les toucher, les recevoir, les rencontrer. C'est par la communion des saints. Il nous est donné par notre baptême de communier aux choses saintes, aux réalités saintes, et notamment à l'Eucharistie. Et ceux qui sont morts dans le Christ, qui accueillent sa miséricorde dans le séjour des morts, eh bien, le Christ les unit à lui. Et Jésus, lui, il est déjà ressuscité dans son corps, comme Marie par son Assomption. Et Jésus se donne à nous dans son corps eucharistique, qui est son corps ressuscité, à la messe. Et donc, quand je reçois le corps du Christ dans la communion, je ne reçois pas que Jésus. Mais par Jésus et avec lui, je rencontre tous ceux qui lui sont unis. Voyez ? Et donc, nos défunts, nous les rencontrons dans la communion eucharistique, dans la communion des saints. C'est quelque chose de très beau. Voilà. Donc il est tout à fait important d'aller prier sur les tombes de nos défunts, mais dans la foi et l'espérance, vous voyez que c'est très profond et très beau de réaliser que nous les rencontrons dans le sacrement de l'Eucharistie. Ils y sont mystérieusement, silencieusement, mais réellement, substantiellement présents. Voilà, on va peut-être terminer là-dessus. Juste pour le fil de notre vie de disciples, on a plusieurs disciples sous les yeux, avec cet évangile du chapitre 20 de Saint Jean. Regardez le disciple qui vous parle le plus, hein, ou dont vous sentez que le Seigneur vous invite à regarder un peu l'itinéraire et l'attitude, entre Pierre, Jean et Marie-Madeleine. Voilà, choisissez un de ces trois, et puis faites-en un peu votre compagnon, là, cet après-midi, pendant la prière personnelle, jusqu'à ce soir. Voilà. Et puis demandons-leur, par leur intercession, d'être des disciples de Jésus ressuscité et des disciples missionnaires, voilà, qui ne gardent pas pour eux cette bonne nouvelle. Amen.